Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger.
Rendez-nous la chip.
On est en juillet et l'école est presque finie. Sirotez votre cacolac ou votre bissap, vous écoutez le chip. Je m'appelle Mélanie Wanga et comme d'habitude, je suis entourée du frétillant François Aulac.
Frétillant, merci, je prends. Salut.
Et du sémillant Kevin Donna.
Pareil, j'adopte.
Alors, aujourd'hui, pour notre dernière émission, on va faire un épisode un petit peu spécial. Mais avant ça, François, tu as pris une grande décision. Dis-nous
ouais.
Tout.
Oui. J'ai décidé de me faire une teinture blonde. Alors, c'est encore un sujet de débat au sein de mon entourage. J'essaie un peu de recueillir les votes, savoir qui est pour, qui est contre. Pour l'instant, j'ai une très grosse majorité de contre.
D'accord.
Moi, j'imaginais, abandonner mon dégradé.
Ok.
Faire genre un truc, tu sais, raser un yule, quoi, tu vois. Cheveux après toute la même longueur. Ouais. Et puis faire une couleur un peu, tu sais, blond, mais pas blond platine, peroxydé, genre blond à la...
Je sais pas, c'est à la Kanye West.
Non, Kanye West, sûrement, il est un peu trop blond. Plutôt
à la... Tu voudrais un truc plutôt marron.
Ouais, tu sais, voilà, bronze, un peu... Ouais, je sais pas si vous avez vu Pharrell quand il avait fait ça, mais c'était assez stylé.
Ok.
Donc, d'accord. Voilà. Nouvelle coupe, nouvelle vie.
C'est ça, new haircut hoodies.
Alors, attends. Moi, ce que je te conseille, tu peux faire blond, mais seulement la moitié du crâne. Comme ça, tu continues
à ressembler
en Fari. Et là, tout le monde valide.
C'est Pharrell qui se transmute en moi.
Ok.
Alors, cette semaine, on l'a dit, c'est le dernier épisode de la saison. Donc on s'est dit YOLO, on va innover, on va prendre des risques, on va tenter un nouveau format et on s'est décidé sur le mailbag épisode. Donc c'est un épisode un peu courrier des lecteurs RIS,
enfin, si auditeurs,
oui voilà. Et du coup on vous a demandé de nous poser des questions sur les réseaux sociaux et on en a choisi quelques-unes et pendant tout l'épisode on va y répondre.
On n'a pas pu tout faire.
Décidé de répondre enfin à vos questions. On a juste décidé de prendre nos responsabilités. Hein.
Il n'est jamais trop tard. Mais du coup, avant tout ça, un petit trashou iconique.
All right. Pour ce dernier épisode, on avait un seul trashou iconique et c'est celui des réseaux. On vous a parlé de la petite sirène de Disney. Le dessin animé de 1989 va faire l'objet d'un remake en live action, donc avec des vrais acteurs et des vraies actrices, courant 2020. Disney a casté Hailey Bailey du duo Chloe and Hailey. Écoutez leur album The Kids Are Alright, il est vraiment très très bon.
Protégé de Beyoncé,
oui, qui ont été plus ou moins propulsées.
On les a vues dans Ground Nish.
Les a également vues dans Ground Nish. Elles ont un morceau avec Joey Badass qui est vachement bien aussi. Bref. Hailey a été castée pour incarner Ariel, donc la petite sirène, le rôle principal. Alors que dans le dessin animé de 89, pour ceux qui l'auraient pas vu, Ariel était.
Caucasienne,
le coderme, n'est-ce pas? Blanche et rousse. Voilà, donc conséquence, shitstorm, enfer et damnation sur les réseaux sociaux. Et donc si je vais un peu résumer la polémique, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ont fusé de part et d'autre, je la résumerai en deux camps. D'un côté, il y avait les anti-Hailey, on va dire, qui sont rassemblés sous le hashtag NotMyAriel. Donc je vous résume un peu quelques-uns de leurs arguments. Vous ruinez notre enfance. La petite sirène est un conte danois, donc un conte d'Andersen. Donc forcément, la petite sirène doit être blanche. Il y en a marre des SJW et du Wakanda Twitter et de la police de la pensée unique qui prône le politiquement correct. Et puis évidemment, l'incontournable. Et pourquoi pas caster Omar Sy dans le rôle de Bruce Lee pendant qu'on y est. Du côté des pros Hailey, on a plusieurs arguments, notamment Hailey Bailey est parfaite pour le rôle, il nous faut plus de représentation de personnes noires au cinéma, et puis l'incontournable, wesh, détendez-vous, les sirènes c'est des personnages imaginaires. Argument auquel je souscris pas mal. Donc on vous a demandé ce que vous en pensiez, vous avez été plus de 500 à voter, donc il y a eu beaucoup de réactions quand même. 46% ont dit « We stan a black queen », donc iconique
pro Hailey.
pro Hailey évidemment. 4%, il y a pas d'UV sous l'eau, qui était une réponse inspirée d'un tweet qui a été qui est devenu assez viral d'un mec qui disait qu'il y avait pas d'UV sous l'eau.
Donc, et donc on peut pas bronzer.
Et donc on peut pas bronzer puisque évidemment les noirs sont juste des blancs qui ont beaucoup bronzé.
Mais y a-t-il voilà du liquide amniotique, y a-t-il des UV dans le liquide amniotique?
C'est la question.
Bah, ce qu'il y a dans le ventre des mamans, tu vois, quand elles sont enceintes. Voilà.
J'avais pas pensé. Non, mais c'est un grand scientifique. Je pense que c'est Mac Lesgy qui a fait ce tweet. Et 50% des gens ont répondu encore ce débat. Point d'interrogation, point d'exclamation. Fusionné.
Je suis de leur camp.
Alors, quelques réactions, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires. Donc, on a Tatou qui nous fait une piqûre de rappel et qui nous dit « Mami Wata est noire, donc ses descendants, dont la petite sirène, sont noirs. » Donc, Mami Wata, divinité d'Afrique de l'Ouest, qu'on retrouve également dans certains cultes caribéens sous le nom de Maman de l'eau. Donc voilà, en gros, voilà, Mami Wata est une... Les sirènes sont aussi, existent aussi dans le folklore et les traditions et les mythes africains et afro-caribéens. Donc, why not une sirène noire? On a Queen of Pettiness qui nous fait un commentaire qui va plaire à Kevin, puisqu'elle dit « Elle était où l'énergie des gens quand c'était des personnages non blancs qui étaient whitewashés? Moi, j'attends toujours la pétition pour l'incarnation d'Alexandre Dumas par Depardieu.
Mm-hmm. »
Question que Kevin avait déjà soulève très souvent.
Bah ouais.
C'est quelque chose que t'en
penses. Mais il me semble qu'il y avait eu des gens qui s'étaient élevés contre ça, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux.
Depardieu qui fait Alexandre Dumas en 2010. Donc c'est déjà une autre époque. Il y a certainement des gens qui ont dit des trucs, mais les réseaux sociaux n'avaient pas la même ampleur. Ouais.
Pour rappel, Alexandre Dumas, il était
Carteron,
donc en gros
un quart. Alors je mets plein de guillemets parce que c'est des termes de l'époque coloniale qui sont pas bien vieillis, qui sont assez coloristes et voilà esclavagistes. Mais voilà, c'est ce qu'on appelait à l'époque un carteron.
Voilà, on a Sarah également qui se réjouit et qui dit enfin, quand j'étais jeune, je n'avais que Whoopi, donc Whoopi Goldberg, qui me ressemblait. Là, les petites filles vont pouvoir voir une nouvelle princesse Disney noire. Donc enfin, sinon j'adore votre podcast, vous êtes géniaux, longue vie au chip, merci Sarah. Cool. On a Mamada Zojo qui souffre en silence depuis des années puisqu'elle nous dit j'ai encore Dragon Ball Z Evolution au travers de la gorge, donc laissez-nous blackwasher au calme. J'ai beaucoup aimé ce commentaire parce que je suis ressorti presque en larmes de Dragon Ball Evolution
à ce point-là.
Ah ouais, non, vraiment, c'était non seulement un film entièrement whitewashé, mais aussi un très 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 mauvais film, l'une des pires adaptations de manga.
Il est sorti récemment ou...
il est sorti
début des années 2000.
Ah ok,
ouais, j'étais au collège ou au lycée à ce moment-là, peut-être 2005 2006, quelque chose comme ça. On a Who is you Sharon qui décide de botter en touche et qui dit pourquoi on continue à donner de la visibilité à ces bêtises, faisons nos vies, faisons nos bails. Fuck eux. J'aime beaucoup cette réaction et c'est souvent ma position par rapport à ça. On a Jessica Day qui n'est pas dupe et qui nous dit bravo à Disney pour ce superbe coup marketing. Une petite sirène blanche n'aurait jamais autant fait parler de ce remake. Toute publicité est bonne à prendre, bonne ou mauvaise, mais bon, on stan quand même Hailey Bailey. Et on a enfin Ketera Moda, il y a d'autres réactions mais je vais m'arrêter ici, qui utilise un très bon gif de Maxine Waters, vous savez, la sénatrice.
Reclaiming my time.
Reclaiming my time. Reclaiming my time. Ketera Moda qui nous dit j'attends la Hollywood money pour le psy après le trauma qu'on doit encore affronter à chaque fois que les fachos sont sortis, à chaque annonce de ce type. Et donc la réaction de Ketera Moda, je pense qu'elle reflète un peu l'état d'esprit de pas mal de gens autour de cette table.
Mm-hmm.
2 sur 3, 3 sur 3.
Mm-hmm. Ouais, non, en fait, je suis content évidemment qu'elle ait le rôle. Bon, ça change pas ma vie. Je suis pas super excité d'un énième remake en live action d'un Disney. Mais sur les réactions de gens qui disent mais qu'est-ce qui se passerait si on disait ça, si on remplaçait un tel par un tel. Et en fait, ça a pas lieu d'être. Enfin, le déséquilibre est tellement grand qu'il n'y a pas trop de place au débat. Oui. Vous trouvez qu'il y a trop de princesses noires chez Disney? Ok, d'accord.
Non, puis. Enfin, il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'à chaque fois on dit oui, si on remplaçait. Moi j'ai vu un tweet qui m'a énormément fait rire, qui avait mis la fiche de Kirikou avec un bébé blanc à la place. Et en fait, les gens ils sont obligés d'aller chercher le peu de représentation qu'on a, tu vois. Genre on a quatre personnages, ils vont dire et si on prenait celui-là et qu'on faisait en blanc. Et t'es là, genre, mais tu te rends compte Tu te rends compte du paradoxe en fait. Enfin, c'est assez flippant. Ouais. Moi, ce que j'aime à souligner en fait dans cette histoire, c'est juste que Disney ils sont assez forts hein, parce que comme j'ai déjà dit, je pense qu'ils font pas ça de bonté de cœur. Non seulement cette fois de dire oui, on a pris la meilleure. Bah là, il se trouve que effectivement, je pense que Hailey Bailey a une voix en fait qui correspond carrément au personnage. Oui. Mais ils font pas ça par gentillesse en fait, parce qu'ils se sont dit ah là là, enfin on va mettre des noirs. Non, ils font ça pour des très bonne raison, qui est numéro un, ça leur donne une bonne image, comme on disait tout à l'heure, toute publicité bonne à prendre, regardez-nous comme on est woke, comme on est progressiste, et numéro deux, ça leur permet aussi d'attirer un public nouveau qu'ils n'avaient pas par ailleurs peut-être...
Nouveau Disney.
Non mais tu vois justement c'est un vrai truc, ce truc de dire effectivement on perd un peu en vitesse. Tu vois eux-mêmes ils sortent plus de films on va dire originaux, ils font des remakes. Ouais. Et du coup pour ces remakes, pour attirer en plus un public nouveau qui a peut-être pas les mêmes goûts qu'il y a 30 ans, ils ont compris un peu l'intérêt pécunier de la représentation. Quoi.
Bien sûr, ils se modèrent. Mais de toute façon Disney est une immense corporation mondiale sans visage, ils font rien par philanthropie ou gaieté de cœur ou par valeur, ils font uniquement ça comme tu dis pour des raisons marketing, mais c'est, je trouve ça cool qu'ils se... Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'évidemment, c'est pour des raisons pécuniaires et pour ce, enfin, ils se modernisent quoi, tout simplement. Moi, j'ai deux réflexions. La première, c'est qu'évidemment, j'aurais aussi voté pour la réponse 3, encore ce débat, parce que c'est vrai que c'est un débat qui est quand même très redondant. On a eu la discussion lorsque John Boyega a été choisi pour incarner un personnage dans Star Wars. On a eu la même chose lorsque Nora Dumezweni a été choisie pour incarner Hermione Granger dans Harry Potter 8 au théâtre. On a eu la même chose pour tout le casting féminin de Ghostbusters le remake, et puis pour Idris Elba. Évidemment, dans le rôle de James Bond, Idris Elba qui d'ailleurs vient d'annoncer cette semaine
qu'il
laissait tomber, voilà, à essayer d'avoir le rôle à cause des réactions racistes. Donc bref, le débat sur la race des personnages, fictionnel ou pas, c'est un débat qui est passionnant et que moi j'adore avoir, mais c'est vrai qu'on le refait tout le temps, on a toujours les mêmes arguments, un peu ad nauseam, et perso je trouve ça assez agaçant, et donc je comprends le ras-le-bol de nos auditeurs. La deuxième réflexion que je me suis faite, c'est que les réactions du camp anti-Hailey, quand vous y pensez, elles font assez froid dans le dos. Je suis un compte Twitter qui s'appelle Shitty Gamer Takes, qui en fait fait des posts, des captures d'écran, comme son nom l'indique, d'avis de gamers merdiques. C'est-à-dire que, en gros, c'est des gamers conservateurs, souvent pro Gamergate ou des choses comme ça, j'imagine, pro 4chan, vous savez, qui expriment leurs avis contre la représentation dans le monde des jeux vidéo. Donc ça va être des commentaires du genre, ouais, comment ça se fait qu'on puisse prendre des personnages noirs alors qu'avant, voilà, c'est un monde de fantasy, c'est un jeu fantasy, on pouvait prendre que des personnages blancs, c'était très bien comme ça. Pourquoi est-ce que Xbox et Microsoft, ils ont mis un drapeau Pride le jour de la Pride et tout? Pourquoi ils viennent inviter la politique et toutes ces questions de minorité dans nos jeux vidéo, on était très bien comme on était, etc. Et en fait, donc c'est exactement le même débat qu'on a aujourd'hui avec Ariel ou dans le cinéma et la pop culture. Et quand tu prends ces commentaires hors contexte, genre on veut pas qu'un tel soit noir, ça n'a pas de sens que machin ne soit pas blanc, pourquoi vous voulez nous imposer des LGBT partout, etc. Quand tu oublies le fait qu'on parle d'œuvres fictionnelles, voilà. Moi j'aimerais bien que quelqu'un fasse un projet artistique, tu sais, prennent ces commentaires, les impriment en grand sur des très grandes affiches, en découpant dans Star Wars,
les références pop culture,
voilà, en découpant le contexte et en reprenant juste les arguments en substance, et qu'on affiche ça dans la rue et on verra comment les gens y réagissent. Donc bref, ce que je dis, c'est quand tu prends ces commentaires là hors contexte, il s'agit ni plus ni moins, selon moi, de commentaires de suprémacistes blancs, en fait. Et ce qui est drôle, c'est que la pop culture finalement permet d'exprimer des avis éminemment politiques mais qui seraient étiquetés d'extrême droite dans tout autre espace, tout autre contexte, en fait.
Je peux juste interrompre une minute. Je pense qu'il y a aussi des gens qui, de toute façon, ont ces réactions-là. Pas seulement. Je suis d'accord qu'il y a une partie de haine, de rage et tout ça. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas que les grandes corporations prennent position d'un camp ou de l'autre sur ces questions-là. Ces dernières semaines, c'était le mois de la Pride.
Tu crois à une forme de libertarisme, en gros?
Non, pas. Enfin, des gens qui vont dire de la communauté LGBT ou de je sais pas, ou des activistes noirs qui vont dire, il y en a marre que les entreprises surfent sur le mois de l'histoire noire, que Nike surfe sur le mois de l'histoire noire, que Starbucks surfe sur le mois des fiertés. Et donc un peu Disney, qui, on l'a déjà dit, on a déjà pris la précaution de dire que c'était une grande entreprise internationale. Mais il y a des gens qui disent, voilà, Disney, quand ils s'emparent de ces questions-là, ils le font pas nécessairement toujours bien. C'est pas juste est-ce que c'est des bonnes intentions, c'est aussi est-ce qu'ils le font bien.
J'ai une pote qui était à la Pride à Paris et qui me disait, mais en fait, les trois quarts des chars, c'est des chars corpo. Et en fait, c'est assez légal. Elle me disait qu'elle est passée devant le char Mastercard. Et que selon elle, c'est vraiment un dévoiement finalement de la cause.
J'ai vu une vidéo sur YouTube qui expliquait en plus à quel point les corporations comme Starbucks, notamment, ça se concentrait sur Starbucks et sur le fait qu'ils te disent, oui, 30% de ta boisson est reversée à je sais pas qui, et qu'en fait à terme c'est genre $200,000, ce qui paraît énorme, mais quand tu vois que Starbucks fait des revenus à hauteur de milliards chaque année, tu te dis c'est vraiment du foutage de gueule, et c'est vraiment, ils utilisent ça pour leur image, en fait.
Ouais, c'est clair. Et puis là, sans compter les questions d'évasion fiscale, etc. Bien sûr. Ça ne paye pas leurs impôts. Bon, bref, tout ça pour dire que ouais, c'est une fois que ces gens-là se permettent d'exprimer ce genre d'avis, Et j'ai l'impression que parce qu'on parle de séries, de fiction, de jeux vidéo et de pop culture, c'est des avis qui sont considérés comme ouais mais c'est bénin. En gros, les gens ils sont cons, ils sont en train de s'écharper autour de d'œuvres de fiction.
Alors qu'en fait non.
Donc je trouve ça un peu ironique et je pense qu'on devrait.
On en a marre des noirs dans les jeux vidéo. En fait, faut enlever les jeux vidéo.
T'enlèves dans les jeux vidéo, c'est ce que je dis. Et là, tu comprends à quel point c'est des avis effrayants. Et je pense que ces gens-là eux-mêmes ne se rendent pas compte à quel point ces opinions-là sont dangereuses, parce que je pense que c'est des gens qui sont pas forcément politisés, qui sont pas forcément des gros nazions, tu vois, qui vont dire la même chose dans un autre contexte, mais qui vont se permettre ce genre de violence, tu vois, parce qu'on parle de jeux vidéo ou de pop culture. Donc voilà, moi je trouve ça un peu chaud.
Leave Ariel alone.
Et ce qui est drôle, c'est qu'après, c'est nous, genre le chip ou les noirs en général, qu'on va accuser de voir de la politique et de la race partout. Donc lol.
Alors, le mailbag épisode, comment ça marche? On vous a demandé donc de nous envoyer vos questions pop culture et société. On a trié vos messages et on a sélectionné ceux qui nous ont inspirés. Donc vous êtes prêts? C'est parti, on commence.
Ouais, alors la première question, c'est pour François. C'est une jeune femme qui s'appelle Gladys. Et c'est à propos de l'épisode d'Intouchable. Il y a quelques épisodes, on a fait Intouchable, comparaison avec
l'art
The Upside.
Et la manière.
Voilà, la version VF. Never.
Épisode 16. Elle nous rappelle que le film est tiré d'une histoire vraie où le personnage d'Omar Sy, donc Driss, n'est pas noir, qu'il est d'origine maghrébine. Il s'appelait Abdel Selou. Il a d'ailleurs été consultant sur le film et selon elle, c'est peut-être pour ça qu'il n'écoutait pas de hip-hop. Je me souviens qu'effectivement, tu disais que quelque chose qui t'avait un peu froissé dans, aussi bien dans l'original que dans le remake, c'était le fait que ce soit dans la version française Earth, Wind and Fire ou Cool and the Gang et Aretha Franklin dans la version américaine.
Ils ont fait un choix, on va dire, de lisser, on va dire, cet aspect-là de la culture. Ouais.
Allez debout, Philippe.
C'est qui ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète.
Bon, il est grand, il est costaud, il a deux bras, deux jambes, un cerveau qui fonctionne, il est en bonne santé.
Trop long, là!
Les gars des cités, ils n'ont aucune pitié.
C'est ce que je veux. Aucune pitié.
Voilà. C'est bon comme ça?
Attends. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, c'est vrai que le vrai Omar Sy,
le vrai Driss,
il est en effet, il est, je crois qu'il est d'origine algérienne, Abdel Yasmine Selou, et c'est vrai que son histoire d'amitié, parce que l'époque aussi est différente, c'est vrai que son histoire d'amitié avec le vrai Philippe, donc Philippe Pozzo di Borgo, elle se déroule dans les années 90, c'est-à-dire que Philippe Pozzo di Borgo devient tétraplégique en 93 à cause du fameux accident de parapente, et c'est là qu'il prend donc cette espèce d'auxiliaire de Vic avec qui il va en fait entretenir une relation fusionnelle pendant 15 ans. Mais moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est que en 93, le rap existe déjà en France, déjà. En 93, NTM et IAM sont actifs depuis 88. Et donc en 93, on est en plein âge d'or du rap.
Ça danse le Mia à cette époque-là.
Je danse le Mia.
Ça commence à être mainstream.
Je danse le Mia est sorti précisément en 93. Lorsque Abdel Selou se met à travailler avec Philippe Pozzo di Borgo, il a 21 ans. Il est originaire d'une cité en région parisienne. C'est quand même très 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 probable qu'à ce moment-là, Abdel écoute du rap. Plus du rap. Moi, je le vois plus écouter du rap que de la funk ou du disco. Donc déjà, moi, c'est la première chose
donc
que j'ai envie de...
Donc tu penses que c'est du washing de goût
continue,
musicaux.
Je continue de penser que c'est du washing. Et même si c'était pas le cas, même si on disons que le vrai Abdel de l'époque n'écoutait pas de rap et a préféré, enfin, il préférait la disco et le funk, ce qui est tout à fait possible. Le film Intouchable, ça reste une adaptation. Ils ont fait des choix et ils sont arrangés avec la réalité. Par exemple, le film ne se passe pas dans les années 90.
Ouais, il se passe dans les 2000, il y a des téléphones portables.
Le film se passe dans les années 2000. Abdel ne s'appelle pas Abdel et n'est pas algérien, mais justement, c'est Omar Sy. Donc, ils ont fait des choix avec la réalité. Du moment qu'on fait des choix avec la réalité, on peut aussi s'adapter avec ça. Et donc, pour moi, ça reste un choix arbitraire. Et dans les années 2000 où se passe le film, c'est évident que le rap est déjà évidemment hégémonique en France, notamment dans la jeunesse parisienne. Le personnage de Driss, c'est un banlieusard d'une trentaine d'années.
On rappelle, le film sort en 2011.
Voilà, 2011. Ouais. Driss, c'est un personnage, c'est un jeune comme les autres. C'est mille fois plus probable que ce mec-là écoute du Rof que du Earth, Wind & Fire. Donc voilà, pour moi, ça reste un choix arbitraire quand même. Et je pense qu'ils auraient dû faire un autre choix arbitraire, ne serait-ce que pour rendre le film un peu moins ringos aussi et le mettre plus en lien avec l'air du temps. Ouais, Kevin.
Alors, pour le coup, s'il a été consultant, Abdel Selou, et qu'il a eu son mot à dire sur la musique, je trouve que c'est assez réaliste, du coup. En fait, ce que je veux dire, c'est que même s'il avait 21 ans dans les années 90, etc., je pense que sa génération fait un peu le pont entre cette musique funk qu'on écoute en région parisienne dans les années 80-90 et le rap qui arrive. Si tu regardes les gars DJ Abdel, etc., c'est vraiment la musique qu'ils ont écoutée dans leur jeunesse, qu'ils vont sampler, qu'ils vont utiliser à fond dans les années 90. Ça donne une couleur même au rap français. Après, c'est vrai que si le film en 2011, je me souviens dans l'épisode où on en parlait, j'ai justement que en termes de swag, avec des guillemets, une expression qu'on disait en 2011, c'est faible. Ouais.
Et n'oublie pas, Kev, ils se rencontrent en 93, mais ils ont été en
pendant des années.
Donc en 98, Saint-Saint-Denis style. Mais alors, ce que je veux dire, on est en plein âge d'or.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de génération? Je sais pas, dans la vraie vie, quel âge il avait aussi.
Il avait 21 ans quand il rencontre Philippe. Tu vois, donc quand bien même en 93, je veux bien que le rap n'ait pas explosé, même si pour moi il a déjà explosé. 5 ans plus tard, parce que le film, il se concentre sur plusieurs années, tu vois.
Bien sûr.
5 ans plus tard, c'est Saint-Saint-Denis style. C'est... Ah, tu
oui, vois si ce ça avait été un quarantenaire, t'aurais peut-être pu justifier ça en disant peut-être que le gars écoutait ses vieux trucs. Et que
bien
voilà,
sûr,
quoi.
C'est évident, c'est évident.
Donc François, tu as raison.
Et voilà,
c'est ça qu'il voulait entendre.
Pour résumer, oui.
Alors, pour la suite, on a une question de Hermela qui nous demande du coup « Bonjour, bravo et merci pour ce merveilleux podcast qui m'a boosté à lancer un podcast avec un ami. » J'ai gardé merci. Ça parce que ça fait chaud au cœur. Donc, par rapport à l'épisode Jérôme et moi, est-ce qu'après le partage de vos expériences, vos Jérômes respectifs ont émis des commentaires? Se sont-ils reconnus? Si oui, étaient-ils positifs ou ont-ils mal pris ce que vous avez partagé? Alors François, on veut bien que tu répondes parce que
c'est ton idée.
Cet épisode, c'était un peu ton idée. Ouais. Et tu peux peut-être juste nous rappeler de quoi parlait l'épisode Jérôme et moi.
Ouais, Jérôme et moi, c'était un épisode... En fait, j'ai proposé à KVML de parler de ça en revenant de vacances aux Antilles où j'avais invité quelques amis, en grande majorité locodermes. Et
blanc.
Je sais.
Tipex, blanc.
Oh God.
C'est des trucs de Twitter.
That's offensive. Et bref, en gros, voilà, j'avais subi pas mal de micro-agressions et j'avais envie de m'interroger sur comment tu fais pour gérer les micro-agressions lorsqu'elles viennent de personnes qui viennent de ton propre cercle d'amis, de gens que souvent t'as rencontrés avant même que toutes ces histoires de wokeness et de trucs comme ça soient forcément des choses importantes pour toi. Et donc des gens à qui tu peux pas renoncer en un claquement de doigts comme ça, et à qui pourtant il faut surmonter, on va dire, ce gap de la question raciale. Donc c'était, c'est marrant parce que c'est un épisode qui a beaucoup résonné, j'ai l'impression, avec les éditeurs. J'ai eu pas mal de retours même aujourd'hui, gens qui viennent d'écouter le podcast ou qui l'écoutent depuis longtemps mais qui vont me parler de cet épisode qu'on a fait maintenant il y a presque un an, quoi.
Premier épisode de la saison 3.
Ouais, premier épisode de la saison 3 chez Binge. Donc ça fait plaisir et ça montre que on vit tous un peu la même expérience. Alors pour parler un petit peu de Jérôme, Jérôme va bien.
Je l'ai vu, je l'ai croisé il y a quelques semaines.
Ah ouais? Il n'était pas forcément d'accord avec tout ce que j'ai dit sur lui dans l'émission. Mais en grande globalité, Jérôme a trouvé le débat très constructif. Il a même fait écouter le chip à sa copine là récemment. Faut savoir aussi qu'il n'était pas d'accord sur tout pour certaines raisons. Déjà, des fois, il trouvait que bon voilà, oh t'abuses quand même. Je suis pas tant comme ci que comme ça, etc. Bon, des trucs un peu de dosage, on va dire. Et puis il faut aussi savoir que Jérôme en fait ne représente pas qu'une seule personne. En fait, c'est comme un personnage de fiction. Pour moi, Jérôme en fait c'est 70% de Jérôme et 30% d'autres Jérômes. C'est-à-dire qu'il y a 70% d'un seul Jérôme et 30% d'agrégats.
Des Enguerrand,
des Gonzagues, voilà, des Lucas. et donc voilà. Mais c'est vrai que la grande majorité de Jérôme, c'est un seul Jérôme. Et donc ce Jérôme-là, en fait, je l'ai appelé avant l'émission d'ailleurs et je lui ai dit, écoute, je vais parler de ça, etc. Et je veux juste te prévenir, je veux pas que tu découvres, je veux pas que t'aies l'impression que je dis des trucs sur toi un peu à ton insu, que tu pourrais penser en plus un peu offensant et sans avoir été, prévenu, et il m'a dit non mais il y a aucun souci, etc. Il a écouté l'émission, donc voilà, aucun problème.
T'as répondu il y a aucun problème, négro.
Non, il a pas répondu ça. Et donc pour revenir un peu sur son évolution, bon bah j'évite quand même encore de parler de manière frontale de race avec Jérôme. Je suis pas allé débriefer l'affaire Nick Conrad avec Jérôme. mais je le vois quand même évoluer. C'est toujours quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et qui se déconstruit lentement sur la race, mais aussi sur le genre. Et on a souvent quand même des débats parce que bon voilà, Jérôme exerce une profession qui fait que voilà, il est souvent en lien avec l'actu et donc on est en plein dans les débats de société, etc. Et donc c'est quelqu'un de renseigné, et c'est quelqu'un qui réfléchit. Il m'a dit des trucs qu'il avait pu dire ou penser par le passé, des trucs qu'il a pu faire, et qu'aujourd'hui, il comprenait que ça avait pu avoir un caractère problématique. Genre, ah ouais, l'autre jour, quand même, ouais, j'avais fait ça. Je me suis dit, bon, finalement, en regard de d'autres trucs, bon, c'est vrai que c'était chaud, et bon, c'est vrai que je ferais les choses autrement. Donc, je pense que quand même, il évolue, et c'est une bonne chose. Il y a des choses sur lesquelles il ne reviendra pas, ou du moins pas tout de suite. Et c'est de ces choses-là, en fait, que j'évite de parler avec lui, et je laisse aller à son rythme. Moi, tant que je me... Tu vois, tant qu'on n'a pas ce débat, hein, tant qu'on n'a pas une sorte de vieille discussion houleuse sur le sujet, je le laisse dans son truc et je le laisse réfléchir tranquille, tu vois.
Et est-ce que tu serais prêt à avoir quand même des débats avec lui sur certains sujets qui piquent?
On débat souvent, on parle beaucoup d'actu, mais comme je te dis, je me préserve quand même une sorte de poche de truc où je sais que voilà, il risque de dire un truc qui va me saouler et on va partir dans les tours et ce sera pas constructif, en fait. Donc voilà, il évolue. Et ce qui est intéressant avec Jérôme, et c'est pour ça que je pense que l'épisode était intéressant, c'est que c'est pas un asion ou un cas désespéré, en fait. C'est un mec qui est un peu, parfois un peu bourru et pas toujours très à l'aise avec le fait de remettre en cause sa blanchité ou sa masculinité ou ses privilèges ou tous ces trucs-là. Et donc je trouve qu'en ce sens-là, il représente 90% en fait des personnes blanches de France. C'est des gens, pour moi, 90% des blancs en France, c'est pas des gars qui votent ou des meufs qui votent Marion Le Maréchal, Le Pen ou qui
non,
font
c'est
des trucs.
Que 30%.
Oui, c'est voilà. C'est ça.
Les européennes. Mais pour moi, la majorité des blancs en France, c'est les gens dont Martin Luther King parlait, les white liberals qui en fait ne bougent pas en fait. Et donc pour moi, c'est des gens qui sont pas méchants. Sont pas méchants, mais qui n'ont jamais connu l'expérience de la minorité et donc qui, bah voilà, ils comprennent juste pas pourquoi on les saoule avec toutes ces histoires.
Moi je pensais ça, mais effectivement, quand je vois les résultats des élections en France, c'est une position sur qui est en train de s'éroder. En fait, je suis en train de me dire, mais en fait, soit la société change, soit les gens en fait se radicalisent. Mais moi, je crois que cette part de gens dont tu parles est en train de diminuer et qu'elle est remplacée par.
Moi, je pense que c'est les gens. Je pense que la part n'évolue pas, ou peut-être qu'elle évolue un petit peu, mais je pense que surtout que ces gens-là s'expriment plus dans les urnes. Et je pense aussi que de l'autre côté, les formations politiques comme le Rassemblement National deviennent également plus friendly, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que la droite aujourd'hui.
Plus inclusive.
C'est ça, plus inclusive. Et qu'aujourd'hui, la droite traditionnelle, elle ressemble de plus en plus à l'extrême droite, et l'extrême droite, elle ressemble de plus en plus à la droite traditionnelle. Donc, t'as des gens qui, en fait, étaient juste de droite et qui maintenant. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué quand même. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense que c'est pour ça aussi que c'était intéressant de parler de Jérôme, c'est que c'est pas un extrême, et je pense que c'est plutôt représentatif de la société française. Donc voilà, Jérôme va bien, Jérôme évolue, Jérôme est toujours mon ami, et on va bientôt partir en vacances ensemble d'ailleurs, donc voilà.
Oh. Sympa. Alors ensuite, on a une question de BPO Rechine qui nous demande, depuis le commencement du podcast, est-ce que votre mentalité concernant la question raciale a beaucoup changé? Si oui, en quoi? Quelles sont les réflexions pensées que vous aviez avant qui étaient bancales ou problématiques, mais sur lesquelles vous vous êtes finalement renseigné pour ensuite changer de façon de penser? Merci de ce que vous faites. Kevin?
De rien.
Ouais, merci. Alors, sur la question raciale, j'ai appris des choses, évidemment.
On a commencé en 2016-2017.
J'ai appris des choses, mais en vrai, pour moi, ce qui a tant évolué, c'est pas ce que je pense de la race, d'être noir, etc. C'est plutôt en étant passé par beaucoup de réflexions sur la question noire, j'ai commencé à m'intéresser aux questions d'identité en général. Et on dit souvent que si on s'intéresse trop à sa communauté, on devient hyper autocentré, on n'a pas d'empathie pour les autres. En fait, moi, je pense modestement que c'est l'inverse qui m'est arrivé. Les questions de féminisme, LGBT en particulier, j'y suis arrivé à travers la question noire, à travers des réflexions qu'on avait avec François, qu'on s'est rencontré sur la masculinité noire et trucs comme ça. Le premier, on avait fait un pilote de podcast.
Collector,
c'est ça. Où on recevait Kiddy Smile pour parler de Renoir fragile et de toutes ces questions-là. Donc moi, j'ai lu pas mal de choses, j'ai regardé des trucs sur ce sujet-là. Pas juste la saison 2 de Pause. D'autres, il y a des trucs un peu plus profonds que ça. Même si c'est cool, je suis à l'épisode 3, c'est très très bien. Donc je me suis renseigné sur ce que c'est d'être un homme hétéro cisgenre, par exemple. Là, récemment, j'ai écouté le dernier épisode d'un podcast très cool, un podcast français qui s'appelle Mansplaining, qui est présenté par Thomas Messias, qui est prof de lycée et journaliste. Et le dernier épisode s'appelle Dans la tête d'un hétéro. Et donc il parle de tout ce qu'on a, toutes les représentations qu'on a, tout ce qu'on a, on est censé être en droit d'attendre et tout. Donc c'est des trucs que je me posais pas nécessairement avant parce que j'étais dans ma ligne et que je me posais pas toutes ces questions là. Et dernier truc sur la question LGBT, j'ai jamais pu en parler dans le chip parce que c'est pas une personne noire qui fait ça, mais depuis quelques mois je suis un grand fan d'une youtubeuse qui a commencé sa carrière de youtubeuse en tant que youtubeur. Elle s'appelle ContraPoint, Nathalie Wynne. C'était à l'époque, il y a 2-3 ans, un youtubeur, donc 6 quoi, étudiant en thèse de philo, qui a tout laissé tomber pour être sur YouTube. Et depuis, donc, elle a transitionné. Et entre 20 et 40 minutes, prend des sujets politiques, culturels, etc. et fait de la déconstruction.
On the one hand, you have Judeo-Christian values. And on the other hand, you have degenerates like William Shakespeare, who wrote plays for men to dress up as fairy queens and make out with each other. Which, for the record, is disgusting, and I condemn it, and I'll have no part in it. Because if you didn't know, in Shakespeare times, boys in drag played female parts. I wish I had female parts.
En fait, elle est partie du principe que sur YouTube, il y avait énormément de masculinistes, de gens d'extrême droite, de fans, de plein de gens avec des idées nauséabondes et qui avaient une vision hyper étriquée de ce qu'on pouvait faire sur YouTube. Des gens qui regardent tout droit dans la webcam et qui crient des choses méchantes. Et elle, en fait, elle fait des mises en scène extraordinaires. Elle prend des semaines pour faire ses vidéos. Elle est à moitié en drag queen, mais en même temps, elle parle de philosophie, de trucs comme ça. C'est complètement déconstruit. C'est fou, c'est incroyable. Donc voilà, c'est ce genre de choses-là que j'ai découvert en étant plus dans les podcasts, sur YouTube, sur les trucs comme ça, et ça vous intéresse, bon, vous mettra les liens.
Moi, de mon côté, avant le podcast, j'étais pour le coup beaucoup axée sur les questions de féminisme au sens large, en fait. Et grâce à l'émission et grâce aux questionnements, en fait, que j'ai continué à me poser à partir du moment où on a commencé l'émission, après, j'ai envie de dire que c'était peut-être quelque chose qui était déjà entamé avant. Mais j'ai compris, en fait, je pense, ce que c'est vraiment d'être une femme noire en France. En fait, c'est, moi, c'était ça qui m'échappait, parce que, effectivement, mon parcours féministe, c'était beaucoup de livres, beaucoup de grandes penseuses du féminisme français. Et malheureusement, en fait, c'est énormément de femmes blanches. C'est Simone de Beauvoir, c'est la deuxième vague du féminisme, c'est tout ça. Et en fait... Ben, je pense qu'à partir de 2015, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'afroféminisme et à ce que ça voulait dire. J'ai fait beaucoup de lectures, Bell Hooks, Angela Davis, et c'est vraiment ça. Je pense au final que c'est notre cas, tous les trois, c'est l'intersectionnalité en fait qu'on a réussi à appréhender. Qu'est-ce que c'est en fait que toutes les oppressions se croisent et que même quand on est un homme noir, et ben finalement il y a des choses qu'on n'a pas déconstruites. Et quand on est une femme noire et qu'on est en minorité dans un pays blanc, ben, pareil, il y a des choses qu'on déconstruit pas nécessairement tout de suite. Il y a énormément d'histoires, notamment aussi avec le Paris noir et toute l'histoire en fait des Noirs en France que j'ai découverte, que j'ai appréhendé, que j'ai compris en fait. Et en fait, c'est comme un puzzle. Au début, t'as ton petit bout de puzzle, t'as tes 5 pièces, et puis au fur et à mesure, tu rajoutes des pièces, et puis le paysage commence à s'agrandir et tu commences à comprendre l'immensité en fait et tout ce que ça veut dire, tous les gens qui se sont battus avant nous, qu'est-ce qu'ils ont apporté, beaucoup de gens qui se sont battus, qui ont fait des choses, qui ont été oubliés, qui ont été effacés de l'histoire, et du coup on a cette espèce d'éternel recommencement en fait, où on découvre à nouveau l'eau chaude, alors qu'en fait non, il y avait des penseurs, ouais, qui avaient écrit des livres sur ces sujets-là bien avant
qui
nous.
Qui ont eu des risques, qui s'est engagé.
Et c'est fou, et en même temps c'est... Je trouve que ça donne de l'espoir, parce qu'on se dit, bon, bah en fait, ça veut dire que c'est à nous aussi de nous battre pour changer la manière dont ces choses-là sont représentées dans la société, peut-être la manière dont on apprend les choses à l'école. Moi, j'ai appris tellement de choses grâce à des threads sur Twitter, quoi. Des trucs que jamais j'aurais appris à l'école autrement dans les cours d'histoire.
C'est clair.
Et vraiment, enfin, moi, c'est vraiment cette évolution-là qui s'est faite. La condition noire en France, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pareil, on le dit souvent, mais on est souvent tourné vers les États-Unis. Et c'est pour ça que maintenant, je rigole un peu quand il y a des médias qui disent oui, alors la question des réparations se pose aux États-Unis et en fait maintenant je rigole et je fais ah oui, et je comprends en fait qu'en France on a vraiment encore beaucoup 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 de chemin à faire et pour nous accepter ce qui s'est passé et faire un travail dessus. D'ailleurs il y a un documentaire qui va sortir normalement début 2020 sur France 2 sur justement apparemment c'est l'anniversaire de certaines décolonisations. En fait, ils vont faire tout truc sur, voilà, sur l'Algérie, tout ça. Et en fait, ils ont interviewé justement des gens de notre âge pour savoir qu'est-ce l'histoire alternative, en fait. Comment les gens, en fait, qui descendent des gens qui ont été colonisés, voilà, vivent cette histoire qui est apprise d'une certaine manière dans les livres d'histoire, mais qui, dans la réalité, que ce soit par nos parents, nos grands-parents, n'est pas du tout vécue de la même manière. Ça va être hyper intéressant. Et en tout cas, je suis contente.
Je me méfie de la façon dont France 2 le traitera, mais je salue l'initiative.
Bah écoute, je vais être interviewée, donc je vais essayer de faire passer certains trucs. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant qu'un grand média prenne cet angle-là de tu vois, ils auraient pu ouvrir des livres d'histoire et faire venir des experts et dire racontez-nous ce qui s'est passé. Non, là ils vont interviewer vraiment des gens qui ont vécu ça.
Histoire vivante.
C'est cool. Voilà.
Ouais, c'est cool.
Et toi, François ?
Moi, je dirais qu'en fait c'est paradoxal, mais plus je me renseigne sur toutes ces questions de wokeness et sur toutes les idées progressistes en général, on va dire, plus je deviens tolérant en fait avec les gens qui ne sont pas justement là-dedans. C'est étrange, ça peut paraître paradoxal, mais en fait ça, je pars du principe que très socratien, hein, que plus j'en sais, moins j'en sais en fait, et qu'en fait la vraie sagesse c'est de reconnaître qu'on n'y connaît rien et que de toute façon on n'y connaîtra jamais tout. Et donc du coup je me rends compte que à quel point la déconstruction et tout ce dont on parle tout le temps dans le chip, mais même ailleurs et notamment sur Twitter, je me rends compte que c'est un très très long processus intellectuel qui d'une part n'est jamais terminé et d'autre part est très très long et demande beaucoup de ressources, beaucoup de temps, beaucoup de capital social, de capital culturel, de capital économique. Je me rends compte qu'en fait, pour beaucoup d'entre nous, voilà, la wokeness, en fait, c'est un truc de CSP+, bourgeois, parisien, qui parle anglais, en fait. Et donc, je suis de plus en plus tolérant avec les gens qui n'ont pas forcément ni le temps ou même l'envie, en fait. Parce que tout le monde ne s'intéresse pas à ces questions et tout le monde ne se lève pas le matin avec le poids du monde et des oppressions sociétales et systémiques sur les épaules. Donc, je suis de plus en plus tolérant, en fait, avec les gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas s'engager sur ce long chemin qui s'appelle la déconstruction, etc., etc., etc. Alors évidemment, j'ai quand même un minimum syndical. Vous pensez bien.
François, j'entends de façon théorique, je suis complètement d'accord avec toi.
Ouais.
Mais en même temps, je te vois te fâcher avec des gens, avec des Jérômes qui sont des gens tout à fait convenables et qui sont plus éveillés, plus tolérants que 80 à 90% des gens avec qui tu vas interagir dans la rue.
Mais c'est parce que
c'est tes amis, c'est parce que c'est tes proches.
Tu parles d'amis proches qui s'engagent avec moi dans une discussion précise où tu vois, je vais aussi me sentir attaqué et où clairement là, on est dans un débat, tu vois, une discussion où je peux pas juste fermer ma bouche et rien dire, tu vois. C'est des cas un petit peu particuliers, mais je parlais plutôt en règle globale, tu vois, sur ma façon de voir les choses. Et donc voilà, quand aujourd'hui un rappeur dit un truc stupide sur la race ou le genre, je dis pas que j'approuve, je dis ouais mais bon, what did you expect en fait? What did you expect? C'est un produit de son environnement.
Mais les années 2010, ça nous a vraiment permis, je trouve, de mettre à distance les célébrités et d'en fait se dire c'est pas parce que quelqu'un est célèbre qu'il a conscience
pas la mission des célébrités d'apporter le bien dans le monde et ils sont pas plus intelligents que les autres.
Après il y a des limites aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as quelqu'un qui va te sortir un gros truc raciste sur un plateau télé, il faut quand même que ce soit challengé, tu vois, ou un gros truc sexiste.
Ah oui, je te dis.
Mais la barre n'est pas là non plus. C'est-à-dire que il y a pas besoin de faire du négationnisme de l'esclavage en prime time pour avoir des problèmes avec Twitter par exemple.
Tu peux
dire des choses bien moins graves que ça sur la question, sur n'importe quelle question sensible, parce que justement ce sont des questions sensibles, c'est logique que ça déclenche des réactions fortes. Mais ce que je veux dire, c'est que le niveau d'attente qu'on peut avoir à certains moments aussi, il est plus élevé qu'il y a 20 ou 30 ans.
Oui, grâce aux réseaux sociaux notamment. Mais c'est ça que je dis en gros, c'est qu'aujourd'hui je suis en mode voilà quoi, what did you expect? Et je peut-être que je vais pas pointer du doigt quelqu'un qui, tu vois, n'a pas forcément fait tout ce travail. C'est genre, il est dans son rôle, il est un produit de son environnement, you do you, I do me, voilà. Et je ne me trouve pas de nouvelles raisons tous les jours de m'indigner, sinon ma santé mentale va s'en détériorer et ça sera pas très constructif.
Moi je pense qu'il faut surtout question sensible de société, il faut à peu près être capable de mesurer dans quel dans quelle mesure on est minoritaire ou majoritaire. C'est-à-dire que une bataille sur comment dire, un domaine sur lequel tu es extrêmement minoritaire, même si tu as complètement raison, tu peux pas attendre de la part de la société, de l'ensemble de la société, de faire comme si ton avis n'existait pas.
C'est comme arriver avec des théories sur le blackface en 2010, tu te fais défoncer.
mais bien sûr, ça veut pas dire que t'as tort. Ça veut juste dire que faut être conscient que le mainstream autour de toi va te faire. Bah, et c'est pas les blancs. Pour le coup, pour une fois, on peut arrêter le truc. C'est une question qui.
C'est
les engueulades que j'ai sur ce sujet-là, autant avec des noirs qui sont pas d'accord avec moi, mais qui sont mes proches, ma famille, machin, que avec des blancs qui n'y connaissent rien et qui voilà. De donc c'est des questions super complexes. Ouais. De ouf. On a une question de Juniba qui est métisse et qui a une question pour Mélanie. Elle explique que du côté noir de sa famille, donc métisse, donc on lui dit que elle est. Non, pardon, je reprends, je me suis trompé, c'est pas une femme, c'est un homme, donc je reprends. Question pour Mélanie de Juniba, qui est métisse et qui, du côté noir de sa famille, se prend souvent des réflexions du style tu es français, tu ne sais pas ce que c'est le racisme, ça ne te touche pas, ça ne te concerne pas. Mélanie, est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu, par exemple, quand tu as voyagé en Côte d'Ivoire ou ailleurs ?
C'est quelque chose que j'ai même entendu ici en France. Je voudrais juste faire un petit rappel sur le fait qu'on dit souvent que les métis ne sont pas concernés par le racisme parce que leur côté blanc, en fait, les protégerait en quelque sorte. En France, il y a un abus de langage autour du métissage. On dit métis et en gros, on veut dire métis noir-blanc.
Ouais.
Généralement, alors que dans l'acception réelle, métisse, c'est tout ce qui est mélangé. Donc, on peut être métisse de deux pays d'Afrique et être métisse. Ici, je trouve qu'il y a plusieurs aspects. Alors, oui, les métisses ont certains privilèges par rapport aux personnes noires et ou plus foncées, notamment en ce qui concerne le colorisme et la respectabilité. On a souvent tendance à prêter plus de confiance et de respectabilité aux personnes métisses. Mais il faut rappeler qu'en France, les métisses sont des personnes racisées. Elles sont aussi, du coup, soumises aux préjugés racistes qui constituent la société. Donc, il y a de la discrimination, il y a de la fétichisation. Les métisses, du coup, sont concernés et sont aussi victimes de racisme, quoi. Ce qui est intéressant dans le cas des métis, c'est qu'ils doivent d'autant plus jongler avec le fait qu'une partie de leur famille n'est pas noire et une partie de leur famille est noire. Et dans les deux cas, il peut y avoir de la négrophobie. Là je vais parler quand même des métis noirs. Hein.
Donc des choses, tu veux dire, un peu internalisées.
Voilà, ouais. Du côté des familles noires, ça peut être internalisé, effectivement. Et donc dire, de toute façon, puisque t'es métis, t'as ce privilège, donc tu sais rien et tu peux pas être victime de racisme. Ce qui est factuellement faux, en fait. Moi j'ai mon expérience, mais j'ai parlé aussi avec plein d'autres personnes métisses qui m'ont dit que voilà, il y a du racisme effectivement. Mais du coup, en fait, ce que je trouve important de comprendre, c'est que les métisses sont des personnes entières. Ça, j'ai l'impression que c'est pas très rentré dans la tête des gens, mais en gros, on n'est pas à moitié noir ou à moitié blanc. On est 100% noir et 100% blanc. En fait, on est des personnes. On se coupe pas en deux, quoi. Et du coup, effectivement, les propos racistes concernent aussi les personnes métisses. Et là où c'est difficile, c'est que c'est au moment où tu dois confronter ta famille. C'est un peu le cas du Jérôme, sauf que là, le Jérôme, c'est ton oncle,
c'est ta mère,
c'est ton père. Et en fait, je trouve que c'est difficile, mais c'est là où il y a le plus de pouvoir. Parce que si tu n'arrives pas à confronter ta propre famille et à dire « ça, c'est un propos raciste » ou « ça, c'est un délire, toi, t'es blanc ». Non, je ne suis pas blanc. Non, je ne suis pas blanc. Je suis noir et blanc. Je suis les deux, quoi.
Je suis métisse, un mélange de couleurs.
Merci, François. Mais en gros, si tu n'arrives pas à confronter ta famille sur ça, c'est pas au travail, quand tu vas subir un truc raciste au travail, ou c'est pas quand tu vas être devant les flics, qu'il va falloir confronter les flics, que tu vas y arriver. Il faut commencer quelque part et du coup, il faut vraiment faire cet exercice de prendre un peu son courage à deux mains et de parler et de dire voilà pourquoi non, t'as tort factuellement sur ça.
Tu crois pas que c'est plutôt le contraire ? Enfin, ce qu'on disait dans l'épisode justement Jérôme, c'est que j'ai l'impression que c'est plus difficile, à toi de me dire, hein, je parle sous ton contrôle, mais je trouve que c'est plus facile de confronter quelqu'un, voire de entièrement canceler quelqu'un qui dit quelque chose de raciste, admettons, si cette personne c'est un collègue ou une personne lambda, que si c'est ta propre mère, en fait. J'ai l'impression que c'est plus difficile de confronter, au contraire, ça.
C'est propre... plus difficile, mais tu vois, toi-même, tu le disais tout à l'heure, que des fois tu te prenais la tête avec des potes parce que tu dis, attends, on est en relation avec moi, tu me parles de ce sujet, on va en parler, tu vois. Alors que le nobody d'à côté, tu vas dire, bon, vis ta vie, c'est pas grave, not my problem. Alors qu'en fait, Moi, je pense que confronter les gens qui sont proches de nous et qui peuvent d'autant plus faire l'effort de comprendre, justement parce qu'ils sont attachés à nous, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est le plus difficile parce qu'effectivement, moi, le jour où j'ai dû confronter ma mère sur des trucs qu'elle m'a dit, ou... enfin, tu vois, c'est dur, mais il faut le faire. Enfin, et je pense que c'est vraiment important. Et justement, ça aide à combattre cette espèce de situation un peu chelou dans laquelle se trouvent les métis. On leur dit, bah non, mais en même temps, t'es pas noir, donc t'es mieux que les noirs. Mais en même temps, t'es quand même victime de racisme. Non, non, non. Voilà, on est des personnes. On n'est pas des espèces de petits bisounours dans les deux catégories séparées, quoi. Mais c'est vrai que c'est une situation compliquée. Et je comprends tout à fait, parce qu'il y a aussi, comme tu disais, Kevin, de la négrophobie intériorisée dans les familles noires, quoi. Des gens qui vont te sortir des trucs, des arguments coloristes.
J'ai dit internalisé tout à l'heure.
T'as pas dit ça ?
J'ai dit internalisé, c'est intériorisé. Je pense
intériorisé.
Excusez-moi la francophonie.
comme disent mes parents, il n'y a pas plus raciste que les Antillais, hein, parce qu'ils sont d'abord racistes entre eux avant d'être racistes envers les autres. Donc
Non, puis c'est un effet de la suprématie blanche. C'est-à-dire qu'il y a des effets psychologiques qui en fait...
Oui. Il y a des facteurs historiques qui
historiques, voilà.
Absolument, de la sociologie aussi, c'est-à-dire que quand t'es, j'imagine, alors moi j'ai pas grandi en région parisienne par exemple, mais j'imagine qu'il y a aussi des familles noires, d'origine anti-Afrique, peu importe, qui donnent des images ou des idées négatives des noirs à leurs propres enfants noirs, métis ou pas d'ailleurs, tu vois. Donc oui, il y a une partie aussi du problème qui vient de nous. Hein.
Mmh. Ok. Alors... Question suivante, on nous a demandé, si vous étiez sur une île déserte, de nous donner, non ?
L'avion,
ah,
le jet privé.
Ah oui, je remets le contexte storytelling. Alors, on est dans un jet privé pour aller aux BET Awards, et notre avion s'écrase sur une île déserte.
Putain, ça c'est vraiment moche. Et on survit ?
On survit.
C'est pas mal.
Putain, c'est chaud. Et on doit choisir un livre, un album et un film à amener sur l'île déserte.
C'était pas trois ?
Mais
bah, c'est un chacun.
Ah ok, d'accord. Bon, bah, ouais, mais, okay,
mais du coup, comment on peut choisir ce qu'on emmène, puisqu'on n'avait pas prévu qu'il y ait
un
génie.
Mais si, pour le voyage.
Il y a un génie.
Si un génie me donne un vœu, je demande de rentrer chez moi ou d'aller au BET Awards.
Il te donne un souhait, c'est un bon Fnac.
T'imagines, t'as Will Smith qui apparaît en mode je suis le génie, il te propose un vœu, mais c'est une carte d'achat, quoi, c'est un bon d'achat.
C'est un bon cadeau.
C'est quoi, c'est 50 euros.
C'est ça.
Ok, wesh.
Alors.
Qui commence ?
Allez, moi je commence. On parle de choses blanches ou black culture.
Allez, on te laisse les deux, des choses métisses.
Parce que des choses métisses. Parce que j'ai un peu de mal en fait. Parce que par exemple, trois de mes livres préférés, c'est Chronic City de Jonathan Lazem, qui est un auteur américain. C'est un bouquin qui est paru, genre, je sais pas, dans les années 2000 et tout. C'est un bouquin tout à fait contemporain. Qui est absolument génial et que je vous recommande. C'est l'histoire d'un acteur à la retraite qui en gros vivote à New York et il se passe plein de trucs. Et c'est un livre qui relève du réalisme magique avec une écriture magnifiquement ciselée, des personnages un peu chelous, etc. Et c'est vraiment génial. Et je le revisite à chaque fois et à chaque fois je suis ce truc apaise mon âme. Un autre de mes bouquins préférés, c'est 84 de George Orwell, classique. Ouais. Le parfum de Patrick Susskind, vous savez, que je peux relire 50 fois sans m'en lasser. Mais donc voilà, si je devais choisir un bouquin justement alors noir, j'ai envie de dire Écrire en pays dominé de Patrick Chamoiseau, mais sans grande conviction parce qu'en fait je sais que sur l'île déserte je vais me faire chier quoi.
c'est un des
livres qui m'a quand même beaucoup marqué.
Dans ma shortlist, il y a Chronique des sept misères de Patrick Chamoiseau.
Ouais, bah Chamoiseau c'est quand même le OG, donc voilà. Mais bon, faut avec ça un peu chiant quand même. Mais je dirais quand même Écrire en pays dominé de Patrick Chamoiseau. Si je dois choisir un album. On fait comme ça, vous voulez faire livre, ou je dirais tout ce que j'ai ?
Ah, vas-y, dis tout ce que t'as.
Ok. Alors, si je devais choisir un album, alors si c'est vraiment très très compliqué aussi, parce que le nombre d'albums que je kiffe, oulala, c'est compliqué. L'album contemporain, maintenant, en ce moment,
il n'y en a qu'un que tu peux choisir.
Oh non ! J'ai pas envie de faire votre
Non, mais en plus,
fait.
Il me semble que c'était trois. Mais bon, vas-y, continue.
C'était trois, mais.
Mais
bon,
non,
bref.
C'était trois parce qu'on est trois.
Oui, c'est ça.
Ok, d'accord.
Bref, voilà, si vraiment je dois choisir un truc vraiment contemporain, je veux quand même en choisir deux. Mec, fuck. Alors, je dirais l'album Rare de Old Dune City Engine, parce que ça fait genre un an, ça fait genre depuis Arte Radio, c'est Arte Radio Days que je vous saoule avec Old Dune City Engine et je continue à écouter. Donc, Old Dune City Engine, c'est mon gars fur. Mais si vraiment je dois prendre un classique, genre intemporel, Miss Education of Lauryn Hill, gros classique, voilà. Et c'est pareil, en film, franchement, mon film préféré, c'est pas un film afro-américain ou quoi que ce soit, ou même caribéen ou français, machin, ou africain. Enfin, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Bah, c'est américain.
Oui, c'est américain, mais c'est pas afro-américain, je veux dire. C'est pas un truc.
C'est un réalisateur français.
c'est Michel Gondry, ouais, que j'aime beaucoup, voilà, et Jim Carrey, c'est un de mes acteurs préférés. Donc ouais, je dirais ça. Et du coup, si je devais choisir un truc vraiment en mode black culture, ce serait pas un film, ce serait plutôt The Boondocks, en fait. Ce serait plutôt le dessin animé The Boondocks, ouais. Donc du coup, une série.
Qui va faire un comeback, apparemment.
Qui va faire un comeback avec Aaron McGruder, donc le créateur de la série originale, du comics original pour le reboot, parce qu'il était parti pour la saison 4. Et du coup, la saison 4 était affreuse. Et donc là, il va reprendre et c'est génial. Donc voilà, désolé, j'ai pas trop joué le jeu, mais voilà ce que je dirais.
Ouais, franchement. Alors moi, mon film préféré, je le dis sans honte, c'est un teen movie qui s'appelle Clueless. C'est mon film préféré tout court, en fait. C'est pas juste mon teen movie préféré. Parce que j'aime bien quand un film s'assume et quand un film assume de parler juste d'une expérience précise, tu vois, avec dans le temps et dans l'espace, c'est très... très situé. Donc Clueless, ça se passe à Los Angeles dans les années 90, tout le monde est habillé comme dans les années 90, tout le monde parle comme dans les années 90, ça a été tourné dans les années 90, c'est avec des stars qui sont tombées de leur piédestal depuis, donc Stacey Dash qui est devenue une républicaine rincée sur Fox News. donc voilà.
Mais c'était une icône à l'époque.
Mais c'était voilà, c'est génial, c'est voilà. Génial, c'est avec Donald Murray qui après était dans la série Scrubs, enfin... Voilà.
Et ça a été repris Donald dans Faison, le clip de pardon. Iggy Azalea. Fancy.
I'm so fancy.
On s'en serait passé, mais voilà. Je sais pas, Clueless, j'aime bien que ce soit un des rares teen movies avec des personnages principaux noirs de l'époque.
C'est, l'héroïne, c'est une blonde quand même, non?
Oui, mais sa meilleure amie, c'est un personnage principal, c'est Dion, et avec son copain Murray, et il y a pas mal en fait, de dialogues sur le fait qu'ils sont noirs dans un monde de blancs.
C'est un sidekick quand même.
Voilà, mais bon, c'est rare. À l'époque, il n'y en avait pas. Okay. Tu vois et j'aime bien que ce soit léger, mais intelligent et drôle à la fois. Il y a vraiment plein d'humour, et du coup, c'est un film que j'arrive pas à me lasser de regarder. Quoi. Je l'ai vu, mais presque autant que toi que Le Roi Lion. En album, j'ai choisi The Velvet Rope de Janet Jackson. Alors, faut pas me hâter sur ça. Hein. Pareil, je m'en lasserai jamais. J'ai hésité avec Lauryn Hill. C'était mes deux. Frontrunners. Et sinon, je suis obligée aussi quand même de parler de Homecoming, le live de Beyoncé à Coachella que j'ai écouté, mais je sais pas combien de fois depuis sa sortie. À chaque fois que je l'écoute, j'ai envie de chialer au passage où elle fait Coming on My Plane. Je trouve ça incroyable à chaque fois cette scène. Le passage Drunken Love Diva. Enfin, je sais pas. En fait, cet album, c'est l'excellence, quoi. Tu sens le truc qui monte. Au début, c'est calme. Et puis après, ça monte en puissance.
Faut que t'ouvres tes horizons quand même au-delà de Beyoncé. Hein.
Oui, mais je sais. Mais bon, tu vois, quand tu trouves un truc qui te fait ressentir ça, voilà, faut quoi. Faut le garder. Faut le garder. Et puis, en livre, j'ai pas réussi à me décider. J'ai envie de dire Bell Hooks parce que j'ai encore des trucs à apprendre, tu vois, sur la société. Mais en même temps, je me dis, si on est sur une île déserte...
C'est ce que j'allais dire, tu veux vraiment lire Bell Hooks en boucle?
Oui,
des essais politiques.
Mais oui, voilà, tu vois, des essais politiques, comment vivre ensemble alors que t'es sur une île déserte, je sais pas.
En plus, tu seras sur une île déserte avec deux hommes noirs déconstruits et woke, donc qui ont pas besoin de faire ce travail, tu vois. Enfin.
Ah ouais, non, moi je reste pas coincé sur une île déserte avec une féministe et Bell Hooks.
C'est bon, quoi.
C'est bon, quoi.
Faut vous déconstruire les
mecs. On aurait dû, en fait, coordonner les trucs qu'on emmène pour pouvoir se prêter les bouquins et les albums, parce qu'on va se faire chier, en fait, sinon. Tu vois, ou si on prend tous les trois le même bouquin, le même film, vous voyez ce que je veux dire?
Après, tout dépend s'il y a Internet, on a pas besoin de quoi que ce soit.
Moi, j'emmènerais juste mon smartphone et mon laptop avec Netflix.
Allez, Kevin, à toi.
Alors, moi, sur une île déserte, alors, moi, alors, en bouquin, j'hésite entre deux choses. Sourire de loup de Zadie Smith. J'ai beaucoup d'admiration pour les premiers romans. Donc, à l'époque, elle a une petite vingtaine d'années.
C'est ouf, elle avait 23 ans.
Ouais, écrivaine britannique d'origine jamaïcaine, Sourire de loup, White Teeth en anglais, plusieurs familles.
Classée dans les 100 romans des 50 dernières années par Le Monde.
Voilà, c'est un des rares romans. Contemporain récent que j'ai lu plusieurs fois, donc il y a ça, je me ferai un plaisir de lire une troisième fois. Je l'avais lu une fois en français, une fois en anglais, et vraiment j'avais kiffé. Et j'hésite aussi avec, bon, pas très original, un livre de James Baldwin qui s'appelle La Conversion, Got a Little on the Mountain, parce que c'est le premier livre afro-américain que j'avais lu en anglais, et c'est assez difficile. Je l'ai lu il y a 10 ans, je l'ai prêté à quelqu'un et on ne l'a jamais rendu. Donc j'aimerais bien le relire. Si vous écoutez et que vous avez mon bouquin, que vous êtes un proche,
rendez
le bouquin. En film, trop difficile, donc je vais prendre mon coffret DVD du Chapelle Show.
Voilà. On a le droit au coffret.
Ah ben, je triche.
On va se taper du Dave Chappelle, quoi.
Et en musique, vous avez déjà dit The Miseducation of Lauryn Hill, Velvet Rope, des choses comme ça. François, j'étais surpris que tu prennes pas du Kanye.
Bah, j'aurais pu. Ouais, c'est vrai que My Dark Beautiful Twisted Fantasy aurait aussi été un choix de de choix.
Eh ben moi, si on est sur une île
Francky
déserte
Vincent.
Et que je suis loin,
stop, Mélanie.
Que je suis loin de chez moi, je prends Big Sun de Chassol.
Particulier venant du lointain, mais c'est sur les façades de la montagne, c'est tellement beau, attends, tu entends.
Oh putain, mais t'es tellement bourge, quoi. T'es tellement snob.
Mais voilà, voilà. Mais vous pourrez me critiquer.
Moi, je prends When I Get Home de Sun Lynch.
Comme Like Me, mais je m'en fous.
Non, non, mais j'avoue, c'est un bon album.
C'est un bon album. Il y a une deuxième partie dans cette question.
Oui.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est un certain Nicolas F. Donc, qui nous a parlé de l'île déserte. Et
la deuxième partie.
La deuxième partie de la question est peut-être encore mieux. Tu veux expliquer ?
La deuxième partie, c'est on choisit parmi des personnes blanches de la pop culture avec qui on veut se marier. Non, d'abord.
Donc on a quitté l'île déserte. Hein.
On retourne sur le continent en héros, en héros. Et en gros, c'est fuck, marry, kill, quoi. Qui est-ce qu'on baise ? Qui est-ce qu'on avec qui on se marie ? Et qui est-ce qu'on tue ? Donc on a trois choix.
Personne blanche.
Ça doit être
une personne blanche, évidemment.
Une personne non fictionnelle.
Ah oui, bien sûr.
Non fictionnel, mais voilà, quelqu'un connu. Alors moi, en phoque, je dirais d'abord Marion Maréchal Le Pen. Parce que c'est une femme blanche d'extrême droite.
Marion Maréchal.
Ah oui, putain, c'est vrai. Ah, ce morceau, putain. Non, parce que voilà, c'est une... Je la trouve relativement mimi, et c'est une femme d'extrême droite, donc j'entretiens un kink d'attraction-répulsion envers Marion Maréchal Le Pen, pour toutes les raisons les plus problématiques que vous pouvez imaginer, mais je l'assume, et de toute façon, voilà, ce n'est qu'un jeu de merde. Mais pour faire un truc un peu moins problématique, sinon, j'entretiens un kink vraiment chelou et persistant pour une actrice américaine qui s'appelle Aubrey Plaza.
Ah oui, oui. Donc tu te maries avec Aubrey ?
Non, non, j'arrête dans le fuck.
Ah, d'accord.
Ah, remarque, je me marie bien aussi avec elle. On peut pas.
C'est fuck, marie kill.
Bon, okay,
allez,
okay.
Enchaîne.
Je vais aussi fuck Aubrey Plaza parce que voilà, vous la connaissez peut-être de Parks and Rec et Scott Pilgrim, mais elle est vraiment géniale et voilà, et je suis amoureux d'elle. Je veux me marier avec Lena Headey, celle qui incarne Cersei dans Game of Thrones, parce qu'en fait, on a une compétition avec une pote à moi qui veut également la pécho, et en fait, on veut savoir qui va réussir à se marier en premier avec elle. Donc j'aimerais bien la snatcher sous les yeux de ma pote et la marier et sécuriser le bag, voilà. Et en kill, je kill l'homme pâle sans l'ombre d'une hésitation et sans autre forme de procès, je sors la sulfateuse. Pour moi, l'homme pâle est un homme blanc qui représente tout ce qui ne va pas dans la culture rap, dans la culture musicale plus généralement, dans la variété et plus généralement dans la culture française. En fait, il y a un truc qui va pas avec l'homme pâle pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, de white privilege et trucs comme ça, et de dévoiement de la culture urbaine française.
Néo-rap ?
Le néo-rap, le truc comme ça, les victoires de la musique, les festivals qui vont te booker Vald, Nekfeu et L'Homme Pâle, mais qui vont chier sur tous les autres rappeurs, les gens qui te disent « Ah, moi, j'aime pas le rap et tout, Booba, franchement, c'est vraiment... Il parle que de gun et de machin. » Par contre, j'aime bien L'Homme Pâle.
c'est
les médias qui vont dire que Edith Preto, c'est un rappeur. Wesh, bref, vous avez compris, je tue L'Homme Pâle sans hésitation, voilà. Mais c'était un jeu, hein. C'est pas une diffamation.
Oui, oui,
je pas pour de vrai.
Ce n'est pas un appel au meurtre si jamais un jour cet épisode est diffusé à notre procès.
On veut pas de problème.
À moi ? Alors, en fuck, j'ai un peu hésité, mais je vais rester sur quelque chose un peu un kink politique comme François. Moi, c'est
très bien qui va dire.
C'est Kellyanne Conway. Kellyanne Conway, si vous connaissez pas, c'est la conseillère politique du Donald, de celui dont on ne prononce pas le nom, le 45. C'est aussi une commentatrice politique chez Fox News, elle a tout pour plaire. En fait, au début, la première fois que je l'ai vue, j'ai fait « Ouais, elle est un peu vieille, dégueu et tout, mais il y a un petit truc. » Et un jour, il y a une photo l'année dernière qui est sortie d'elle, assise, un peu cambrée.
La fameuse photo sur
le canapé de l'Oval Office.
Du bureau ovale, et je me suis dit « Ah, elle est un peu bonne. » Donc voilà, ce serait
tellement faux, frère.
Désolé, tellement faux. Le cœur veut ce qui... Enfin, pas le cœur, mais voilà.
La raison ignore ce que le cœur et l'entrejambe...
Ah, c'est sale.
Pour me marier, j'ai un peu hésité, mais finalement, ce sera Bernard Arnault.
D'accord.
Je me suis dit,
tu es un homme vénal.
T'as tellement raison.
Tant qu'à être avec un ou une blanche, je vais directement dans le club fermé des centimilliardaires. On n'en a pas beaucoup parlé. Le mois dernier, fait partie du club fermé des quelques personnes qui ont plus de 100 milliards de dollars. Je trouve que c'est une réussite française. Je trouve qu'on n'est pas assez derrière nos entrepreneurs, nos gens qui créent l'emploi en France. Et puis en plus, je pourrais.
Coupez-lui son micro.
Je pourrais être oppressé comme une femme blanche bourgeoise. bourgeoise. J'imagine que ça va être très dur, mais je veux bien.
J'aurais tellement dû michto Jeff Bezos, mais et, putain, et je suis trop con.
En plus, il est divorcé, là.
Mais je suis trop con.
Et pour le kick, en vrai, je voudrais... Non, pas pour,
Le kick.
Pour le final avec Bernard. Je voudrais qu'il me nomme à la tête de la Fondation Louis Vuitton.
Putain,
ce serait tellement sale. Je ferais des trucs extraordinaires. Bref,
trucs de Renoir à la Fondation.
On sera un power couple inédit. J'ai déjà plein de trucs en tête qui se passent. Et puis, pour Kill, tous.
Quoi ? Ah non, mais là, on va vraiment aller au procès,
non,
là.
Mais toi, tu veux faire des conneries, toi.
Non. En vrai, pour à peu près les mêmes raisons que François Donnet pour L'Homme Pâle, mais en version télé, je disais Thierry Ardisson.
Mais il s'est déjà killé lui-même. Voilà, il a plus d'émission.
Ouais. C'est vrai, il a plus d'émission.
Ouais, il s'est fait têche.
Ah, je savais pas. Ah bah, ouais, j'aime pas tirer sur les ambulances, mais bon. Voilà.
Ouais.
Et toi, Mel ?
Alors, moi, pour le fuck, je vais faire comme vous, je vais faire du sale. Hein. Mon fuck personnel, c'est un crush sale, un peu inexpliqué. François Ruffin. C'est le côté un peu working class héros. Il porte toujours des petites chemises un peu serrées avec son visage dur et tout fermé. Il rigole pas, je sais pas.
Si tu veux un gars working class, sors avec, comment il s'appelle, Besancenot ou Poutou.
Non,
vrai héros de la gauche. Hein.
Non, mais tu vois, je sais pas, il y a quand même un truc chez Ruffin. Bref.
Moi, je te dis, c'est Wauquiez qu'il te faut un gars un peu poivre et sel, un peu.
Dégueulasse.
Mais il était BG à une époque quand il était encore
poivre
et sel.
Il me file la gerbe. Jamais j'irai. Jamais. Bref, en mari, donc je suis pas aussi ambitieuse que Kevin. Moi, je me marie un peu plus bas, mais je me marie avec l'homme blanc du cinéma idéal, Chris Evans, Captain America. Okay. Parce qu'en vrai, si j'étais un homme blanc et que le sexisme ça me concerne pas, le racisme ça me concerne pas, et ben en fait j'aimerais bien être lui. Enfin, ce mec il a une vie parfaite quoi. C'est Captain America, il est beau, il est riche, il aime les animaux, il déteste Trump, il fait des mèmes sur Twitter. Enfin, je sais pas. En plus, vous avez vu.
C'est un choix safe.
C'est pas un spoiler, mais vous avez vu Endgame.
Oui,
sur ses fesses et tout, ben voilà, tu vois.
Okay.
Voilà. Okay. Captain America, c'est un choix. C'est comme quand tu prends de la glace à la vanille, quoi. Tu sais que ça va être un peu fadasse en même temps.
C'est raciste.
Mais c'est quand tu sais pas quel goût prendre, tu prends la vanille et t'es jamais vraiment déçu.
Mais par défaut.
C'est ça, le gars est lisse en fait.
C'est le mec par défaut.
Ouais, non, mais c'est ça.
Et en kill, j'ai choisi Max Landis, qui est scénariste de Chronicle, le film de Joss Trank et d'American Ultra. C'est un mec, donc c'est le fils de John Landis qui a été accusé de multiples agressions sexuelles, viols, manipulations psychologiques sur des jeunes femmes. Et en gros, il est là juste parce que c'est un fils d'eux, en fait. Il est nul, il est moche, c'est un agresseur sexuel. Donc voilà, je le tue sans aucun état d'âme. Et je tiens juste à dire que c'est quand même choquant que son père soit le réalisateur du Flic de Beverly Hills et d'Un prince à New York.
On a Funky Isolated Isabelle sur Twitter qui...
C'est ma chouchou. Je l'aime trop. Isabelle, ouais, elle écoute le chip.
D'accord.
Et elle est trop cool. C'est le meilleur compte à suivre sur Twitter. I don't know a better person. Je sais pas, elle est trop gentille et tout. Ouais, elle est trop cool.
Qui nous demande, si vous deviez faire un biopic sur une figure historique noire et française, qui vous choisiriez et qui en serait la star ? Kev, c'est un peu toi le history nerd de la team. Qu'est-ce que t'en penses ?
Il y a plein de personnages noirs qui mériteraient... De personnages noirs de France qui mériteraient des biopics. Des hommes, des femmes, Afrique, Antilles, Guyane, etc. Par contre, il y a quelque chose en fait qui est d'actualité sur un biopic d'une personnalité noire de France. C'est, j'ai vu ça passer il y a quelques jours, le biopic de Frantz Fanon. Donc quelqu'un qui a eu une vie assez extraordinaire, on a déjà parlé à plusieurs reprises, mais en deux mots, figure emblématique de la lutte contre l'oppression coloniale, écrivain engagé, psychiatre, né à Fort-de-France en 25, il publie Peau noire, masque blanc, et plein d'autres trucs Les damnés de la terre, etc. La nouvelle qui est tombée, c'est que Raoul Peck, donc le réalisateur de Lumumba,
directeur de la Fémis,
il a fait aussi le jeune Karl Marx, donc on prévoit le tournage pour 2020. Donc ça soulève pas mal d'attentes. Et dans la question, il y a qui est-ce que tu choisirais comme acteur? Ben en fait, les castings sont ouverts. Il y a aussi ça. On vous mettra le tweet pour les gens qui sont acteurs. En fait, ils recherchent un homme antillais noirs entre 26 et 36 ans. Ils prennent aussi les débutants. Donc on vous enverra le.
Mais si toi tu devais faire, franchement... coup, si toi tu devais réaliser, tu prendrais quoi?
Tu prendrais qui? Je sais pas. Honnêtement,
un inconnu,
je prendrais un inconnu. Je pense que je casterais. Je pense que quelqu'un, un acteur antillais qui a une petite vingtaine d'années et qui peut jouer. Enfin non, c'est pas forcément une personnalité qu'on connaît déjà. Ça pourrait être un.
Et surtout,
un
on inconnu. Prendrait pas donc un hexagonal avec un accent.
C'est sûr que Fanon.
On prendrait pas Mehdi Sadoun quoi.
Non, mais Fanon ayant écrit sur notamment. La façon de parler des Martiniquais, sur l'accent, sur comment on se retrouve ça, ce serait super bizarre, ça me ferait hyper bizarre. Pas que ce soit quelqu'un qui soit pas de la Martinique ou de la Guadeloupe, mais c'est juste quelqu'un qui aura un accent d'ailleurs. Je ferais, mais ça n'a plus de sens en fait. Là, le film, on sait plus de quoi on parle.
Oui, surtout qu'on n'est plus, dans le cas Ariel la petite sirène avec un personnage fictionnel. On est
sur quelqu'un qui a existé, quelqu'un qui a
vraiment
existé,
comment il parlait, etc.
Qui a laissé des audios et des trucs comme ça. Donc, après, dans le cinéma hollywoodien, des acteurs qui font du vrai travail d'accent, etc., peuvent faire d'autres nationalités et j'ai aucun problème là-dessus. Par contre, si on me prend juste quelqu'un qui vient d'Île-de-France, qui arrive et qui fait salut les gars, je m'appelle Franz, on est super content d'être au lycée Chalchère tous ensemble. On va aller faire la révolution, mais d'abord on va sauver la France. Je ferais ouais, non.
Donc pas Mehdi Sadoun.
Voilà, non, pas ça. Donc voilà, c'est ce que je verrais. Le tournage commencera en 2020. On vous mettra en lien le tweet comme ça, si vous êtes un jeune acteur, en tout cas quelqu'un qui l'ambitionne de le devenir, bah, vous pourrez jouer votre chance.
Go for it. Question pour Mel. C'est Oscurio sur Twitter qui nous demande, je voulais savoir si, Mélanie, tu as des recommandations pour trouver des psys ouverts. En fait, Oscurio est sur Lille et en gros, elle nous dit que les psys non blancs sur Lille ne sont pas vraiment légion. Et donc, elle voulait savoir si il existait des sites ou des communautés qui partagent des adresses de psys woke qui vont pas en gros lui dire mais vous êtes parano, c'est quoi cette histoire ?
Le racisme, mais non.
Etc.
Ouais, c'est une question qu'on me pose souvent parce qu'effectivement, on a fait un épisode sur la dépression et j'ai parlé un peu de mon expérience. Donc voilà, moi, tout ce que... J'ai fait un peu des recherches, j'ai pas vraiment de connaissances en France, mais par contre, j'ai trouvé le blog d'une certaine Yann V. Tsogni qui a un blog qui s'appelle Noir et Psy, qui contribue à déstigmatiser la santé mentale dans la culture africaine, en expliquant que non, en fait, aller voir un psy, c'est pas un truc de blanc, c'est pas un truc qu'on fait quand on est faible, etc. Alors moi, je vais parler de mon expérience qui se limite à la thérapie cognitive. Donc la TCC, c'est une thérapie qui est brève et qui nous aide en fait à travailler sur les schémas de pensée et d'action. Pourquoi on se retrouve toujours dans les mêmes situations? Pourquoi on a toujours le même genre de relation avec les personnes? Quand on a un problème récurrent dans notre vie, ça nous aide en fait à détricoter ça et à voir d'où ça remonte. Donc moi, c'est vraiment cette thérapie-là qui m'a aidée, qui m'a fait avancer. Et du coup, j'ai cherché simplement TCC dans la ville où j'étais, donc Paris, sachant qu'à partir du moment où tu contactes quelqu'un, tu peux très bien lui dire « Écoutez, j'aimerais avoir un psy racisé, quoi. » Ou okay. Une personne de couleur. Ou... Voilà. Je pense que c'est important parce que moi, la première psy que j'ai eue, elle m'a dit « Je ne suis pas disponible, mais voilà, je vous donne une liste de personnes qui sont disponibles. Contactez-les, voyez celle qui vous convient le mieux. » En fait, il faut pas avoir peur de changer de psy parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça, qui me disent « Ouais, moi, une fois, je suis allée voir un psy, mais c'était pas super, elle m'écoutait, elle disait rien, j'étais pas à l'aise, machin. » Il ne faut pas avoir peur de changer de psy. Laissez-vous une ou deux séances et si vous voyez que vous avez l'impression de pas être écouté, de pas être entendu, que vous êtes juste pas bien, vous changez de psy. C'est comme une paire de chaussures, il faut que ça aille, il faut pas qu'on soit mal à l'aise. Je recommande aussi pas mal...
Ah non,
je change de pote.
Attends, tu... Bref, ouais, vas-y.
Je recommande aussi Instagram pour ces questions-là. Vous pouvez faire des recherches en tapant psychologie, TTC, thérapie cognitive. Et il y a des comptes, en fait, qui donnent vraiment des astuces, notamment sur... moi, je lis beaucoup de choses américaines. Il y a un compte qui s'appelle This is Healing, qui est super sur ces problématiques-là. Et il y a aussi, bien sûr, aux États-Unis, des communautés psy autour des afros. Donc voilà, pareil à chercher. Et je voulais juste terminer en disant que je trouve assez scandaleux que les séances chez le psy ne soient pas remboursées alors que l'homéopathie est remboursée en France depuis des décennies. Du coup, le lobby des psys, faut faire mieux, faut arriver en mode Mulan à l'Assemblée nationale pour défoncer tout le monde. Mais ouais, ça serait cool de rembourser la psychothérapie parce qu'en vrai, ça marche quoi.
C'est vrai. Je laisse tomber Maroc. Excusez-moi, je laisse tomber Maroc.
On n'a plus le temps.
Ouais.
Je fais vite pour la routine.
Ben, en fait, il restait la question sur les Noirs, les Africains dans.
Tu l'as retrouvé, Mel?
Sinon, ouais, tu dis.
Ouais,
juste,
ouais, c'est bon.
On coupera, sinon il reste.
On pourra couper là, ouais. Ok. Alors, on nous a aussi posé la question de ce qu'on pensait de la représentation des Africains dans la pop culture, le cinéma et les séries américaines. Donc, l'exemple le plus connu récent, c'est Black Panther, évidemment. Ouais. Mais il y a aussi d'autres exemples, Kevin. Tu peux nous en parler?
Déjà, alors, juste pour en un mot sur Black Panther, il y a cette espèce de guerre qui dure depuis la sortie du film l'année dernière sur c'est des Américains qui font la culture africaine et c'est Disney, ils sont pas censés le faire, etc. C'est pas tellement ça, moi, qui m'intéresse comme débat. J'ai pour vous revu un classique, Un prince à New York, Coming to America, avec Eddie Murphy, et évidemment tout n'a pas bien vieilli. même si le point de départ est assez féministe, parce que donc Hakim, le prince interprété par
Eddie Murphy,
a 21 ans, il doit se marier, on lui présente une femme qui correspond à tous les critères de beauté possibles et imaginables, mais elle est complètement soumise, et lui il a envie de se mettre en danger, de découvrir un truc, donc il part à New York et il se fait passer pour un pauvre immigré africain dans le Queens. Écoutez, la représentation des Africains dans le cinéma américain, c'est pas seulement le rapport entre Afro-Américains et Noirs-Africains, c'est le rapport d'Hollywood déjà au reste du monde qui, de façon globale, est assez ignorant. Il suffit de voir un film hollywoodien qui se passe en France, c'est à se pisser dessus. Alors, un film américain des années 80 avec John Landis, le père de
Max.
De Max. Ça commence donc dans le royaume de... comment ça s'appelle Zamunda. Ouais, le royaume de Zamunda. Donc, c'est une sorte de pré-Wakanda.
Avec quand il marche, il y a des meufs qui jettent des pétales
de rose.
Voilà,
exactement. Et il en a marre. Arrêtez les pétales de rose, ça commence à bien faire. Je suis un homme maintenant.
Why can't I find my own wife?
We've gone to a great deal of trouble to select for you a very fine wife.
I want a woman that's going to arouse my intellect as well as my loins.
Where will you find such a woman?
In America.
So he traveled across the sea to the land of opportunity, which is where the fairy tale ends and our story begins.
Non, c'est pas un très très grand film. Vous n'allez pas trouver de choses si passionnante que ça sur l'expérience des Africains qui traversent l'Atlantique à notre époque. Par contre, petite recommandation, en fait, deux petites recommandations. Évidemment, Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, que j'ai lu il y a 2 ans, qu'une amie américaine m'avait offert et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui parle justement d'une femme africaine qui est nigériane, qui part vivre aux États-Unis et qui doit apprendre à devenir noire, ce qui nous paraît de l'extérieur assez étrange, mais elle n'est pas noire, elle est Igbo. Et c'est en arrivant aux États-Unis où on la met dans cette catégorie-là. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Et puis, il y a eu plusieurs épisodes sur ce sujet-là, mais il y en a un particulier qui s'appelle Coming to America. C'est un podcast américain qui s'appelle The Stoop, qui est présenté par deux femmes noires, Leila Day et Anna Baba. Anna Baba est d'origine soudanaise et elle parle souvent de l'arrivée des immigrés soudanais, mais autres, peu importe, nigérians, éthiopiens, sénégalais, etc., en Amérique, et il y a un milliard de choses à dire sur ce sujet-là. C'est pas toujours évident, on n'arrive pas en terre conquise ou terre promise, donc voilà. Non, c'est mes petites recommandations sur ce sujet-là. J'ai pas grand-chose à dire à part que c'est insatisfaisant, mais il faut pas attendre sur les autres pour donner des représentations correctes de soi-même. Ouais. Donc,
même dans Dear White People, la série, c'était pas ouf. Hein. L'étudiant africain qui a un accent et tout le monde se fout de sa gueule. Ouais, non.
Et pour finir, une question, une dernière question assez simple d'Andrea qui veut la routine capillaire de Mélanie. Donc, c'est pour toi, Mélanie.
J'étais très contente de cette question. Non, vraiment, parce que j'ai récemment refait mon stock à la Natural Hair Academy. Donc, merci pour cette question. Donc, vite fait, moi, j'ai des cheveux entre le 4A et le 4B. Je me suis rasé la tête fin 2017 parce que je perdais les cheveux par poignée. He was here. Entre-temps, j'ai pris des vitamines, j'ai fait des tresses et je commence enfin à retrouver un petit peu de longueur. Donc, mon shampoing que j'utilise, c'est le shampoing Osso Clean de Own Jackie pour vraiment bien nettoyer toutes les impuretés, tous les produits. Voilà. Et en milieu de semaine, je fais un co-wash. Donc, le co-wash, c'est quand tu te laves les cheveux avec de l'après-shampoing. Donc, j'utilise le Coconut Co-wash de Asayam. Voilà, très bonne marque américaine. Je tiens juste à dire que c'est des produits américains et donc généralement c'est sur internet et c'est un petit peu cher quand même.
Même à Château d'Eau, on trouve pas ?
Château d'Eau, on trouve, mais c'est cher. Parce que
tout le monde n'habite pas à Paris.
Ouais, et puis voilà, tu vois, pour les gens qui ne sont pas à Paris. Alors pour mes cheveux, j'utilise la méthode LCO. En gros, c'est l'ordre d'application des produits. Donc d'abord le leave-in, donc l'après-shampoing, qu'on laisse dans les cheveux. Ensuite, on met une crème. C et O, c'est oil, en fait. On met une huile à la fin. Donc, c'est une méthode que j'ai appris par les blogueuses. Merci à elles. En gros, tu humidifies les cheveux. Après, tu les hydrates avec l'après-shampoing que tu rinces pas. Et après, tu appliques la crème pour définir les boucles et tu termines par une huile ou un beurre pour sceller l'hydratation dans le cheveu. Alors, parce que j'ai juste envie de faire un petit point technique, en fait, l'eau, ça s'évapore, mais pas l'huile. Du coup, c'est pour ça que quand on se lave les cheveux et qu'on laisse sécher à l'air libre, après, ça devient tout sec comme, une chips, parce que, en fait, l'eau, elle est partie et que, du coup, il ne reste plus rien. Donc, en fait, il faut mettre de l'eau et de l'huile derrière pour sceller l'hydratation. Donc,
c'est comme la peau, quoi. Tu drapes pas la peau avec de l'eau, quoi.
Mais en fait, moi, quand j'ai avant de voir les blogueuses, je savais pas. Donc,
Fais pas le calcul. Tu dis pas que c'est le même principe sur les cheveux, vrai, sur les vrai. Poils et sur.
Tu vois. Vrai. Et du coup, alors mon leave-in que j'utilise, celui que je préfère parce qu'il est pas très cher, et il est bien, c'est celui de Onjaki. Il s'appelle Quench. Il sent très bon. Il est léger. Il est pas cher. Sinon, j'adore celui des Secrets de Loli, qui est une marque française que j'adore, mais qui est très très cher, qui coûte 20 euros. Donc à chaque fois que j'utilise, je suis comme ça, genre. À chaque fois, je vois la pièce de 1 euro qui sort, quoi. mais voilà, très très bien. Ma crème favorite pour mettre derrière pour faire les boucles, c'est la Double Butter Cream de Asayam. Pareil, assez cher, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et sinon, j'adore la crème de She Moisture, de la marque She Moisture, qui s'appelle Coconut and Hibiscus Milk. En fait, c'est un genre de lait qui sent un peu la vanille et l'hibiscus, c'est trop bien. Et pour finir, du coup, je mets une huile. Alors moi, j'aime l'huile d'avocat parce que c'est léger et ça sent bon. Et l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est beaucoup plus lourd, quoi. Mais en tout cas, ça conserve bien l'hydratation. Et bien sûr, le beurre de karité, on n'a pas fait mieux pour... En fait, ça, je trouve que ça retient mieux que tout, quoi. Avec le beurre de karité, il n'y a rien qui passe. Donc voilà. Et sinon, je termine une fois par semaine par un masque. J'utilise celui de Cantu. Voilà. Merci pour ta question.
Et moi, ma recommandation, c'est, je vais encore être très corporate, c'est Programme B, donc l'émission quotidienne de Binge Audio, présentée par Thomas Rozek et parfois par Mélanie Wonga elle-même.
Oui.
L'épisode que dont je vais vous parler, ça concerne, enfin, il raconte l'histoire d'un homme politique français noir qui aurait mérité un biopic. Il s'appelle Gaston Monnerville. En fait, il y a quelques semaines, Thomas a fait un épisode sur le Sénat et au cours de ses recherches, il est tombé sur cet homme noir guyanais qui a été président du Conseil de la République puis du Sénat de 1947 à 1968, donc un rôle très important dans la vie politique française. Et il était choqué de n'en avoir jamais entendu parler. En ayant fait des études d'histoire, en étant journaliste, etc., de jamais avoir entendu parler de ce grand homme noir politique. Donc du coup, il en parle à des gens autour de lui à Binge Audio, dont Diane, qui lui dit « Mais tu sais que Kevin Duchip, il fait des balades sur les histoires de noirs à Paris et qu'il parle de Gaston Monnerville. » Donc j'ai eu la chance de participer à cet épisode. Thomas se demande « Pourquoi a-t-il disparu de notre histoire commune ?»
On se demande pourquoi.
Racisme. Il y a un peu de ça, certainement. En fait, voilà. J'interviens dans cet épisode. Il y a aussi Georges Patient, sénateur et président de la Société des Amis de Gaston Monnerville, qui intervient. Et Philippe Martial, ancien directeur de la bibliothèque du Sénat, qui intervient également.
Et en discutant avec un sénateur, il m'a dit on revenait sur les accrochages entre l'exécutif et le Sénat. Et il me parlait de oui. Il y a évidemment les grandes phases d'opposition entre Gaston Monnerville. Et De Gaulle. Et le nom m'est resté, je me suis dit, bon, c'est un nom que je n'avais jamais entendu. Donc je l'ai cherché tout bêtement sur Google et je suis tombé sur des photos, des vidéos et j'ai halluciné de voir, quand j'ai lu sa bio, de voir que pendant 21 ans, le Sénat était dirigé par un homme noir et que moi je ne savais pas.
C'est vachement bien, Programme B fait souvent des épisodes sur des sujets un peu. Justement sur l'identité, sur l'histoire noire, sur les femmes, sur toutes ces choses-là. Donc très très bien, allez-y, mettez ça, abonnez-vous. Et puis une dernière petite micro-recommandation. Toutes les saisons sur Spotify, je fais ma playlist de saisons et je n'écoute que ça. Donc je prends 2 ou 3 jours à choisir les morceaux qui vont rythmer ma saison. Et donc je vous mettrai le lien pour ma
playlist. Je vais m'abonner.
Pour ma playlist de l'été. Il y a de la Zumba, il y a de la trap, il y a du rock, il y a de la world music, il y a du jazz, il y a des trucs.
DJ Kevin.
Il y a des trucs honteux. Il y a des trucs bien aussi. Voilà, je vous mettrai les liens. C'est tout pour moi.
C'était le chip et on est en vacances.
Pas moi, ou presque.
Ouais, ou presque. C'est un détail. Bon, alors la saison est finie. On revient à la rentrée. D'ici là, gardez un œil sur votre flux cet été. Il va y avoir peut-être des surprises. On n'en dit pas plus. Mm-hmm. Et voilà, juste vite fait, vous faites quoi pour cet été? Vous avez prévu des trucs?
Moi, je bibi tout l'été. Je serai place du Panthéon à dealer des histoires de trucs de noirs panthéonisés, de trucs comme ça. Donc c'est la haute saison, je transpire, voilà. Mm-hmm. Mais je vais bosser.
Ok, c'est bien.
Moi, je vais partir très brièvement en Italie pour le mariage d'un pote. Et après, je vais sûrement rester ici cet été, bosser, réfléchir à des trucs aussi pour le chip, pour la rentrée prochaine.
Eh bien, figurez-vous que moi, je reste aussi ici cet été, juillet-août à Paris, work. Je réfléchis pareil à plein de projets et tout. Donc, c'est bien. On work hard for the money, c'est cool.
C'est un jour, tu hustle.
C'est exact. Ça.
On revient quand, Mélanie?
Alors, on revient normalement en septembre-octobre. Octobre, probablement. Ne vous inquiétez pas pour nous, on revient.
Stay woke.
Voilà. Tant qu'il y aura des noirs, on sera là.
En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram sur @lechippodcast. On va essayer de répondre aux messages quand même cet été.
On va essayer de répondre, on va faire un mailbag épisode, mais par écrit.
Allez, moi je fais des mailbag épisodes à chaque épisode maintenant. Les gens ont trop de questions et tout, il n'y a plus besoin de chercher des segments, des trucs et tout.
Mais on vous dit de nous envoyer vos questions, on vous dit de nous parler sur les réseaux, etc. Vous le faites. En fait, si vous le faites.
Ils font. Sois pas méchant avec eux.
Franchement, sur le Trash Weekend des réseaux, on a eu tellement de commentaires.
De c'est
tellement plus que d'habitude. Merci aussi pour
c'est
ça.
Cool.
Ouais, donc vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes vos applis de podcast habituelles, sauf Stitcher, visiblement. J'ai posé la question, on n'y est pas. On va peut-être y être un jour.
Ok.
Attendons. Vous pouvez, en attendant, aussi nous laisser une review sur Apple Podcasts en nous mettant 5 étoiles. Pour nous faire plaisir.
Mais mettez 5 étoiles, profitez-en en fait du. Diffusez cet
été.
Faites
tourner
vous
un
allez
peu
voyager, là. Moi je bouge pas, vous bougez. vous mettez le chip dans les oreilles des gens aux quatre coins de la planète et on se
En haut-parleur dans les transports c'est en ça. Commun.
Arrêtez d'écouter qu'au balader, mettez plutôt le chip.
Donc cette émission est réalisée par Solène Moulin, coproduite par Binge Audio.
Bisous.
Et bonnes vacances.
Merci à Binge pour cette saison.
Merci à Binge.
De nous prendre comme des petits réfugiés.
J'ai vu qu'il y avait des vannes sur les réseaux sociaux sur ça, sur où est-ce qu'ils seront à la rentrée.
Des barres, j'ai vu aussi. Hey, on est comme Community, vous savez.
Ouais, on change de
Six Seasons and a Movie.
Six Seasons and a Movie.
Bon, gros bisous les copains.
Salut.
Bye bye.